Alors, quelques mots maintenant sur la crise institutionnelle, histoire de vous donner le moral, parce qu'il n'y en a pas que trois, il y en a au moins quatre. Bon, ben, il y a une crise profonde, crise institutionnelle un petit peu partout. D'abord, l'Union européenne, enfin, si on peut parler d'Union européenne. Vous avez vu l'échec au traité constitutionnel européen, on y est, j'espère, un peu tous étaient pour quelque chose. Bon, ben, on ne nous a pas du tout écoutés. Quelles ont été les conséquences du non au traité constitutionnel européen? On a retardé l'échéance, mais ils ont fait un traité de Lisbonne qui a été ratifié par le gouvernement, par le Parlement. Le lendemain du non au traité constitutionnel européen, on a changé de gouvernement. Et dans le nouveau gouvernement, il n'y avait pas un seul défenseur du non. Hein, Raffarin a sauté, c'est de Villepin qui arrivait, mais ils étaient tous pour le oui dans le nouveau gouvernement. Donc, on n'a absolument pas été écouté dans le non qu'on a pu dire. Enfin, de toute façon, on n'a pas été écouté le mois dernier non plus. Donc. Les Hollandais non plus n'ont pas été écoutés. Les Irlandais n'ont pas été écoutés non plus quand ils ont dit au traité de Lisbonne, mais on leur a dit, bah, écoutez, vous allez revoter. Enfin, hein, vous avez voté non, bon, il fallait que vous réfléchissiez un petit peu, vous allez revoter. C'est marrant parce qu'aucun pays qui a voté oui n'a revoté. Ils n'ont pas donné de deuxième chance. Genre, vous avez dit oui, vous êtes sûr vraiment que vous voulez le traité de Lisbonne, peut-être que c'est non que vous vouliez, on va. Non, non, ils n'ont pas dit, ça semblait naturel. Hein. Ils se foutent vraiment de notre gueule. Enfin, si on appelle ça une démocratie, moi je suis la reine d'Angleterre, quoi. Bon. Crise institutionnelle au FMI et à la Banque mondiale. Bon, au-delà du fait qu'ils ont été complètement délégitimés par leurs échecs, alors, échec, on peut en discuter, mais sur le plan social, c'est un échec, sur le plan humain, c'est un échec, les créanciers vont vous dire non, ils ont fait une mission absolument remarquable, évidemment. Mais à cause de ces. Ils ont aussi une crise interne. Au FMI, les deux derniers présidents ne sont pas allés au bout de leur mandat, et je ne suis pas certain que l'actuel il ira. Hein, parce que Strauss-Kahn, il se sentirait bien le candidat en 2012, et pour être candidat en France, faut qu'il démissionne. C'est marrant quand même que le directeur du FMI, on pourrait penser qu'il se dit, mais je suis sur le toit du monde, là, maintenant, je descends plus, quoi. Mais si, il y a eu Horst Köhler qui est devenu président de la République fédérale d'Allemagne, et il a démissionné du FMI pour aller là-bas, pour aller planter des chrysanthèmes. Enfin, président allemand, il fait rien. Et puis, il y a l'Espagnol, Rodrigo Rato, qui a démissionné aussi avant la fin du mandat, et Strauss-Kahn qui risque de démissionner. C'est quand même bizarre, d'un point de vue interne. À la Banque mondiale, il y a eu la fameuse affaire de népotisme de Paul Wolfowitz, qui avait fait des faveurs à la personne qui passait du temps, enfin du bon temps, ouais, il a droit, mais ça ne va pas comme ça, quoi. Enfin, voilà. Donc, ils sont quand même assez malmenés. Hein. Et malgré tout, quand le G20 se réunit et essaie de trouver une solution à la crise, ben, on va mettre au cœur du système le FMI. Mais, normalement, c'est qu'ils font du bon boulot pour les créanciers. Hein. Donc, on a d'autant plus raison de vouloir les mettre à bas. Et puis, c'est pas le G8 qui s'est réuni, vous avez remarqué, le G8, on n'entend plus trop parler quand ils se réunissent, de genre, quand ils disent un truc, en gros, ça n'a pas trop d'impact. Hein. Le G8, des fois, il fait des communiqués, il dit à la Chine, attention à votre monnaie, il va falloir qu'elle soit moins forte que ça. Hein. Et les Chinois, le lendemain, la monnaie bat des records, ils s'en foutent complètement. Ils disent à l'OPEP, bon, le prix du pétrole, ça commence à bien faire là. Et puis, le lendemain, le pétrole bat un record. Enfin bon. Donc, le G8 ne sert plus trop à grand chose. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on s'ouvre un petit peu pour avoir un peu de poids. Donc, maintenant, c'est le G20. Ben, c'est bien pour dire que. Il y a un problème de légitimité. Et puis malheureusement, Obama a donné un petit peu d'espoir avant d'arriver, mais je vous rassure, il n'y en a plus aucun. C'est certainement moins pire que si c'était Bush ou son copain, je suis d'accord avec vous. Mais Obama a repris comme conseiller Lawrence Summers, vous savez, il avait dit aussi que, en fait, les déchets polluants, il fallait les envoyer en Afrique. Parce que de toute façon, vu comme l'espérance de vie est basse, ça va pas poser de problème là-bas. Si ça provoque des cancers dans 20 ans, de toute façon, ceux qui sont en ce moment, ils seront morts. Enfin, c'était pas dit comme ça, mais il y a la citation exacte dans le bouquin, je vous assure, ça voulait dire exactement ça. Il a pris comme conseiller Paul Volcker. Paul Volcker, qui est celui qui a multiplié par 3 les taux d'intérêt en 1979 quand il était à la tête de la réserve fédérale américaine et qui a mené justement à la crise de la dette pour les pays du Sud. Et puis, il a pris comme conseiller Robert Rubin, qui a été déjà secrétaire au Trésor entre 95 et 99 sous Clinton, on ne peut pas dire que c'était particulièrement des gauchistes, et qui a été un des hauts responsables de Citigroup depuis. Donc voilà, une grave crise institutionnelle, une grave crise alimentaire et une grave crise climatique dont on n'a pas du tout pris la mesure au niveau international pour l'instant, une crise financière et économique et donc sociale dont les effets vont encore se faire sentir dans les années qui viennent, je crois que c'est la preuve que ce n'est pas juste un aléa de l'histoire. C'est le modèle lui-même qui nous a conduits là, et on ne pourra pas trouver une réponse si elle n'est pas, premièrement, globale, et deuxièmement, collective. On nous dit, bah oui, il faut prendre des douches au lieu de prendre des bains. D'accord, oui, oui, bien sûr qu'au niveau individuel, il faut s'impliquer, et il faut réfléchir à notre impact individuel. Mais ça doit passer par un impact collectif, évidemment, sinon la réponse ne sera pas non plus à la mesure de la crise. Et je crois que cette interconnexion entre les crises, elle est très peu faite. Les domaines sont toujours très cloisonnés, alors que les raisons interagissent l'une avec l'autre. Et ça pose fondamentalement la question du modèle économique, du capitalisme lui-même. Est-ce que le capitalisme est capable, à moyen terme, de faire en sorte que les conditions de vie des populations s'améliorent et de faire en sorte que la donne écologique soit prise en compte? Je pense personnellement que non. Donc, il faut le combattre. Voilà ce que je voulais vous proposer dans un premier temps. Merci.